Ces réfugiés nous ont décrit une horreur que nous connaissions depuis plusieurs années, que nous avions documentée, mais qui continue et qui s'amplifie. Des personnes abandonnées en plein désert par leurs trafiquants avant d'arriver en Libye, des personnes vendues comme des objets de groupes armés à bandes criminelles, trafiquants, responsables de traite des êtres humains, des femmes violées, victimes de sévices sexuels, des personnes torturées pour leur extorquer de l'argent à leur famille. La Libye est devenue un piège où se pratiquent les pires tortures et les pires traitements infligés à ces migrants et réfugiés qui n'ont pas d'autre choix en fait pour trouver un refuge que de bien traverser la Libye pour tenter de rejoindre ensuite l'Union européenne. Évidemment, le gouvernement reconnu au niveau international doit agir. Hein, il avait pris certains engagements. Il y a eu des déclarations. Il faut absolument mettre un terme à ces pratiques qui sont orchestrées par ces groupes privés. Mais surtout, évidemment, il faut que la communauté internationale réagisse et que dès les pays voisins de leur pays d'origine, eh bien, ces réfugiés puissent bénéficier de voies légales d'admission, de mise en sécurité, de mise à l'abri. Il y a la réinstallation, l'admission humanitaire qui leur éviterait de devoir prendre des voies irrégulières, de remettre leur vie entre les mains de personnes sans scrupules et qui les oblige aujourd'hui à transiter par le désert, le Soudan, puis la Libye où ils sont maltraités.
Un petit peu plus en détail, il y a entre autres les témoignages qui décrivent notamment des terribles conditions de voyage et puis les extorsions, l'exploitation dont ils sont victimes.
Oui, en fait, les mauvais traitements commencent avant même d'arriver en Libye. Ce sont des personnes donc qui fuient pour la plupart, ils viennent de la Corne de l'Afrique majoritairement, en tout cas pour ceux que nous avons pu rencontrer, érythréens, éthiopiens, somaliens. Ils traversent donc le Soudan irrégulièrement, le désert, et là déjà, les personnes sont abandonnées en plein désert lorsqu'elles ne sont pas aptes à poursuivre le trajet. Certaines personnes ne reçoivent pas l'eau ou la nourriture nécessaire pour survivre pendant la traversée du désert. Des témoins nous ont dit qu'elles avaient vu des personnes mourir de soif. Et puis, ce calvaire, en fait, se poursuit, s'amplifie en Libye où une fois passé la frontière, ils peuvent être vendus à des bandes criminelles ou à d'autres trafiquants. Généralement, ils sont séquestrés, parfois dans le sous-sol pendant de nombreux mois. Soit on les force à travailler pour poursuivre leur voyage ou pour être libérés. Soit alors ils sont torturés pour que leur famille puisse verser de l'argent. Donc torture notamment électrique, dans des bains d'eau. Enfin, on est vraiment face à des traitements extrêmement choquants. Et en plus, lorsque les personnes versent la rançon, on a eu des exemples où les personnes n'avaient pas été libérées mais revendues encore à un autre groupe. Donc finalement, les êtres humains, les réfugiés, ces migrants deviennent des produits commerciaux sordides pour ces bandes armées qui ont le contrôle ou la main sur soit des villes, soit des portions du territoire libyen.
Tout ce que vous décrivez est encore plus compliqué par les différentes factions qui existent.
Oui, en fait, c'est même un élément d'amplification, évidemment. Il faut noter quand même que la Libye, sous Kadhafi et après Kadhafi, n'était pas non plus une terre d'accueil pour les réfugiés et les migrants. Hein. On avait, il y a quand même une très mauvais bilan en matière de respect des droits des réfugiés et des migrants et des renvois forcés, des mauvais traitements. Ça s'est évidemment amplifié après la chute du régime de Kadhafi, mais là, avec effectivement la multiplication des acteurs, notamment armés et criminels, la situation dégénère complètement pour les réfugiés et migrants. Le gouvernement en place, pour l'instant, n'intervient pas, n'en a peut-être pas encore la mesure, la possibilité sur l'ensemble du territoire. Et puis, ça s'amplifie, en particulier pour les chrétiens, avec l'implantation sur le territoire libyen de l'organisation de l'État islamique.
Est-ce que ce que vous avez constaté, les témoignages que vous avez recueillis, parlent d'exactions sur tout le territoire, aussi dans les territoires contrôlés par le gouvernement d'Union nationale, par exemple ?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est sur tout le territoire, parce que je pense que ça dépend beaucoup des routes utilisées par les trafiquants, les passeurs, les migrants et les réfugiés. Ce qui est certain, c'est que nous avons également sorti, publié des éléments sur la façon dont les gardes-côtes libyens, puis ensuite les centres de détention dont certains étaient sous contrôle gouvernementaux, la façon dont ces deux entités-là, finalement, ne respectaient pas plus les droits des migrants et des réfugiés, mauvais traitements, torture, abandon en pleine mer, parfois même tir à balles réelles dans des cellules peuplées parce que les personnes ne comprenaient pas l'arabe et n'avaient pas compris qu'il fallait qu'elles sortent de leur cellule, des conditions carcérales alors qu'il s'agit de migrants, de réfugiés, mauvais traitements à l'encontre des femmes. Donc on a à peu près la même chose, on ne va pas hiérarchiser, mais on a un vrai problème de fond qui concerne toutes les autorités de fait ou légitimes, si l'on peut dire, installées en Libye. Oui.
Vous citez les chrétiens, ils font partie des populations qui sont particulièrement visés et victimes de persécutions religieuses. C'est ce que vous avez entendu.
Oui, c'est effectivement confirmé par des personnes qui ont été témoins ou qui ont même subi les exactions du groupe islamique. Alors, il s'agit de Syriens chrétiens, par exemple, ou même d'Érythréens, qui, parce qu'ils sont chrétiens, vont être détenus pendant plusieurs mois, vont se faire violenter pour changer de religion, devenir musulmans. Et bon, les personnes avec lesquels nous avons pu nous entretenir avaient non seulement passé de nombreux mois en détention, mais ont dû leur libération un peu à un coup de chance. Alors pour l'un d'entre eux, l'un des geôliers a été pris de sympathie et puis lui a fait apprendre le Coran pour que ça puisse passer pour crédible sa conversion. Et dans l'autre cas, la personne a réussi à s'échapper. Mais effectivement, ils sont pour les zones sous contrôle de cette organisation-là. Les chrétiens, évidemment, sont particulièrement ciblés.
Autre population particulièrement vulnérable, les femmes victimes de sévices sexuels.
Avant même de commencer leur exil, leur fuite, les femmes se munissent de pilules contraceptives, tellement il est acquis et évident aujourd'hui qu'elles vont être sujettes à des viols pendant tout le trajet. Évidemment, une femme seule en plein désert entre les mains de trafiquants ou même en Libye, dans une maison en attendant de devoir prendre un navire pour traverser la Méditerranée, c'est autant de situations qui les mettent vraiment en situation d'extrême vulnérabilité. Elles sont souvent seules, parfois prises en charge par des compatriotes ou des personnes qui, au cours du parcours, tentent de les protéger, mais souvent seules ou en groupe de femmes et de toute façon complètement visées. Il y a vraiment une loi du plus fort qui s'impose et plus personne n'ose réagir parce que tout le monde craint les représailles. Et parce que de toute façon, les mauvais traitements ont lieu.
Alors pour vous, il faut régler le problème en Libye, mais aussi en amont.
Il faut voir un peu dans le temps, dans l'immédiat, pour les personnes les plus vulnérables, il existe des dispositifs de réinstallation, d'admission humanitaire qui sont en fait des systèmes qui permettent de délivrer des visas aux réfugiés pour leur permettre de rejoindre des territoires qui ne sont pas que européens, mais d'autres territoires dans le monde, d'États qui sont plus à même de leur offrir une protection. Ça existe, sous-utilisé. En septembre prochain, il y aura un sommet aux Nations Unies pour tenter de rendre ce dispositif beaucoup plus efficace et surtout contraignant. Et évidemment, si on se situe plutôt dans le moyen et le long terme, il faut aussi que les premiers pays d'asile dans lesquels se retrouvent ces réfugiés puissent offrir une protection. Parce que si les personnes ne restent pas au Soudan, par exemple, c'est parce que le Soudan n'est pas en capacité ou ne souhaite pas protéger les réfugiés. Donc la situation est complexe, mais dans l'immédiat, pour sauver des vies, la seule solution, c'est d'ouvrir des voies légales en grand nombre. On est face à une crise mondiale des réfugiés. Déjà, c'est un problème en soi, mais en plus, le côté obscur de cette crise mondiale, c'est la situation en Libye, par exemple.
Alors vous l'avez un peu évoqué, une des solutions à moyen long terme, ce serait aussi de faire en sorte que ces migrants n'aient pas à partir de leur pays. Qu'est-ce que vous pensez du projet qui a été présenté, le projet européen qui a été présenté il y a quelque temps d'investissement dans ces pays pour permettre un développement et empêcher l'émigration en grand nombre?
Dans l'absolu, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le problème, c'est que l'Union européenne se fourvoie complètement dans l'angle qu'elle adopte parce que concrètement, ce qui est dit, c'est que il faut que les États, alors c'est pas les États d'origine nécessairement, c'est plutôt ceux par le territoire desquels vont transiter un grand nombre de migrants et de réfugiés. Et pour ces États-là, l'axe pris par l'Union européenne, c'est de dire il faut qu'ils contrôlent. Donc en fait, il faut empêcher les gens de partir vers l'Europe le plus en amont possible. Et si ces États-là ne le font pas, alors on va suspendre l'aide au développement. L'aide au développement qui, en principe, permet d'améliorer les conditions de vie et potentiellement aussi concerner les réfugiés. Étant entendu aussi que dans ce genre de tractation, de négociation, de coopération, lorsque l'accent n'est mis que sur le contrôle des migrations et des frontières, ça se fait aussi au détriment du respect des droits des migrants et des réfugiés qui vont faire l'objet de ce contrôle-là de la part de l'État qui bénéficie de la coopération de l'Union européenne. Pour faire simple, l'État est empressé de coopérer pour pouvoir avoir des contreparties et donc il va contrôler ses frontières à tout prix et c'est souvent complètement en délaissant le respect du droit international, le respect des droits humains et le respect finalement des personnes qui font l'objet des contrôles qu'il met en place.